Je vais diviser mon sermon en deux sermons parce que sinon on va finir à midi passé et vous ne voulez pas ça. Mais c'est correct, je pense que je vais être capable. On va commencer l'histoire de Noé aujourd'hui. On a déjà lu le texte parce qu'on a aussi le repas du Seigneur. Et on va avoir de la musique spéciale. On va faire un sermon plus court. Bâtir un monde meilleur, comment? Vous savez, on parle souvent de la beauté du monde, la beauté des cultures humaines. Et puis, en même temps, nombreux sont les personnes qui souffrent dans leur âme de le mal qui a pris le contrôle ou qui semble avoir pris le contrôle de la planète Terre, surtout dans les affaires des humains. Il existe dans le cœur de l'homme une passion de voir venir un monde meilleur. Par exemple, on le voit dans une célèbre chanson populaire québécoise que plusieurs connaissent, je crois, écrite par Raymond Lévesque dans les années 50, qui est comme est devenu un hymne d'espoir. Et qui s'appelle Quand les hommes vivront d'amour. Voici les paroles de ce chant. Je ne vais pas le chanter, par pitié pour vous, mais peut-être que vous connaissez la mélodie. Mais quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Je saute un peu parce qu'il y a plusieurs strophes, mais nous qui aurons au mauvais jour, dans la haine puis dans la guerre, chercher la paix, chercher l'amour qu'ils connaîtront. Alors, mon frère, dans la grande chaîne de la vie, attends une minute, qu'est-ce qui se passe? Oui, voilà. Dans la grande chaîne de la vie, hey! Oui, OK. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse ici-bas, c'est le prix. Et voici le refrain. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Alors voilà les paroles d'une chanson qui montre une profonde tristesse devant le mal, devant la violence. Parce qu'en fait, Raymond Lévesque a écrit ça quand la guerre d'Algérie a éclaté. Il était en France à l'époque et c'était une guerre terrible. Il a réagi en écrivant cela. Une aspiration dans le cœur de l'homme. Pour guérir le monde et que la loi de la haine soit remplacée par la loi de l'amour. Et en fait, c'est ça, on va voir ce matin que cette aspiration, elle est dans la Bible, elle est dans le cœur de Dieu, elle est déjà dans la bouche de Dieu Ce que la chanson exprime, ben en fait, la chanson ne va pas assez loin à comparer à ce que Dieu dit. Parce que la parole, les paroles de la chanson qui expriment ce désir amènent en fait une solution qui est imparfaite, une solution qui est trop faible. Alors que la parole de Dieu, elle, amène une solution qui est beaucoup plus réelle, beaucoup plus puissante et qui est la seule solution. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué dans les paroles, mais l'auteur semble dire, mais écoute, mon frère, nous, on est comme une minorité de gens qui sont différents des autres. On va pratiquer la sagesse ici-bas. Et grâce à nous, on va vivre avec l'amour à contre-courant. Et le monde va changer. Et en fait, la Bible dit non. La Bible dit, cette minorité, elle n'existe pas vraiment. À moins que tu laisses Dieu changer ton cœur. Alors, qui que tu sois, et quelles que soient les qualités ou les vertus que tu as reçues de la nature ou de ton éducation, si tu penses que tu fais partie d'une élite qui peut changer le monde parce que toi, tu as l'amour, toi, tu as la sagesse, bien, tu te trompes toi-même et tu risques de faire partie du problème sans t'en rendre compte. La sagesse qu'il faut pratiquer ici-bas, c'est celle qui vient d'en haut. Hein, je répète, la sagesse qui vient et dont on a besoin ici-bas, et dont parle la chanson, c'est une sagesse qui vient d'en haut. Puis cette sagesse, c'est Jésus-Christ. Il est celui qui vient de Dieu. C'est lui qui reçoit notre repentance. Une fois qu'on comprend qu'on n'est pas différent des autres, c'est lui qui reçoit notre repentance et notre cri, « Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me transformes. » Et c'est lui qui injecte en nous une nouvelle puissance d'aimer, une puissance d'aimer qui vient de Dieu. Donc, c'est ce que dit 1 Corinthiens 1, 24. Jésus-Christ est puissance et sagesse de Dieu, mais folie pour les hommes. Donc, dans le texte qu'on a lu, on va le relire. Dieu, en fait, se désole aussi de la corruption, le mal, la violence, l'injustice qui a commencé à régner parmi les hommes et dont se désole aussi beaucoup de cœurs humains. On voit que Dieu planifie de bâtir un monde meilleur. Et lui possède la puissance de le faire. Puis il va le faire à sa manière, pas de la nôtre. Relisons. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. En passant, c'est Genèse 6, les premiers versets. Vous pouvez réouvrir votre Bible, ceux qui l'ont, ou votre application. Là, je suis rendu au verset 3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. » Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes pour qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. » Amen. Ô Seigneur, guide-nous maintenant. Aide-nous à comprendre ce que tu veux qu'on comprenne. Puis on ne va pas tout voir ce matin, donc vous allez rester sur votre faim, mais revenez, après mes vacances, mais revenez la semaine prochaine, parce que Michel Houle va être ici, va nous parler de la tour de Babel, un autre texte du début de la Genèse. Puis en revenant, on va finir sur ce drôle de texte, ce texte difficile. Ce matin, on va commencer à explorer ce constat de Dieu de l'échec de la société humaine et la solution qu'il commence à appliquer. On va regarder le contexte biblique et ce matin, on va commencer à regarder la nature de la dégradation. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu? Alors, le contexte de l'histoire, mais c'est qu'il faut toujours lire les histoires dans la grande histoire. Hein? Et ça fait plusieurs sermons qu'on a fait sur Genèse. Et qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à date? Eh bien, c'est Dieu qui a créé l'univers. Il a créé les humains à son image. On a beaucoup insisté là-dessus. Et une des choses que Dieu a donné à l'homme dans son image, c'est-à-dire dans une ressemblance avec Dieu, Dieu a donné aux hommes et aux femmes la gestion du monde matériel, par délégation, pas par possession absolue, par délégation. Ça continue à appartenir à Dieu, mais Dieu dit aux hommes, occupez-vous-en en mon nom. La terre, les plantes, les animaux, la société humaine. Là, on commence à aller à l'extérieur de la planète Terre. Je ne sais pas si on va réussir à commencer à gérer d'autres planètes, c'est possible. Mais une délégation que Dieu donne, mais aussi Dieu, dans l'image qu'il met dans l'humain, il rend l'homme relationnel. Donc, gérer d'une manière bien, d'une manière, disons, dans l'amour et la justice, les relations. Relations avec les animaux, mais relations entre les humains et aussi relations avec Dieu. L'homme et la femme sont les seuls êtres sur la terre qui ont cette capacité de prendre Dieu comme un vis-à-vis, comme une personne et d'avoir une relation de réciprocité avec Dieu. Merveilleux tout ça, sauf qu'il y a eu cette rébellion qu'on a vue, qu'on a appelée la chute, on peut aussi l'appeler la rupture. Les hommes ont été tentés par cette idée de devenir autonomes dans un domaine où il fallait absolument qu'ils restent soumis à Dieu, la connaissance du bien et du mal. Cette rébellion a fait que l'homme est devenu un faux Dieu pour lui-même et la relation privilégiée avec Dieu a été brisée, endommagée, rompue et Dieu a placé la limite de la mort sur l'existence de l'homme sur la terre. En partie par compassion à cause des dégâts qui avaient été commis. Puis je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a regardé les textes qui ont suivi, bien, de Caïn, qui était le premier fils d'Adam et Ève, jusqu'à Lamech, qui est un descendant plus lointain, on voit que les humains s'enfoncent de plus en plus dans le mal, puis que le mal devient, en quelque sorte, institutionnalisé même dans les sociétés humaines, dans les cultures, les communautés. Mais on a vu, par contre, que Dieu poursuit l'homme par sa grâce générale, sa grâce spéciale. Bon, voilà pour la révision. Est-ce que ça vous rappelle des choses? Pas beaucoup? Bon, c'est peut-être bien qu'on fait des révisions de temps en temps. Donc voilà, j'ai oublié de faire avancer ça. Et Dieu et sa grâce, oui. Donc, parlons un peu de la dégradation qui est décrite ici dans Genèse 6, parce qu'apparemment, ça s'empire. Le texte n'est pas facile à comprendre. Moi, j'ai fait un peu de recherche et il y a quelques mots hébreux dans le texte qui sont difficiles à traduire. Puis, même quand on pense qu'on comprend, c'est difficile à accepter comme texte parce que ça dit des choses qui sont dures. Parlons surtout ce matin du premier constat négatif qui peine le cœur de Dieu. C'est cette affaire des fils de Dieu qu'on a lu. Les fils de Dieu ont trouvé les femmes des hommes belles et ont voulu avoir des enfants avec eux. Quel texte étrange! Il semble y avoir des transactions entre les familles humaines et les fils de Dieu et un des sens fréquents de fils de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est les anges. Alors, si on parle d'anges qui s'intéressent à faire des enfants avec des femmes humaines, ça ne doit pas être des bons anges, ça doit être les anges déchus, les démons. les démons qui... et on a comme un indice dans 2 Pierre et dans l'Épître de Jude dans le Nouveau Testament, indirect, où ces deux épîtres-là parlent d'anges qui ont quitté la dignité de leur rang et que Dieu va punir. Donc, des anges déchus qui, en quelque sorte, ont voulu avoir des liens qui ne sont pas acceptables aux yeux de Dieu avec les humains. Ce qui est intéressant dans le texte de Genèse 6 qu'on a lu aujourd'hui, c'est que c'est les hommes que Dieu punit ici. Donc, Dieu est fâché avec les hommes également. Alors, c'est comme si, il semble en tout cas, que les humains, de leur côté, se sont dit, « Ah ben nous, on veut reconnecter avec le monde spirituel avec lequel on a une rupture. Ben, on va essayer de marier nos filles avec des démons, puis je ne sais pas. Il y a peut-être eu des espèces de noces sataniques ou autres, et les hommes ont cherché à retrouver, c'est ce que je pense, moi, et d'autres spécialistes aussi, des spécialistes plutôt que j'ai lu sur le sujet, retrouver l'immortalité perdue depuis la chute, par ces espèces d'initiatives occultes. Comprenez-vous de quoi je parle? Ils se disent, on va connecter avec les anges, on va marier nos filles, et elles vont avoir des enfants, puis ça va nous reconnecter avec le spirituel et avec l'immortalité. Mais la Bible ne revient pas sur le sujet. Alors, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé avec ces espèces de liens illicites. Mais tout ce qu'on sait ici, c'est le plus important, c'est que Dieu s'oppose à cela. Les anges et les hommes n'ont pas été créés pour ce genre de relation intime. Nous, les humains, toi qui es humain, tout le monde ici est humain. Bon, il y a des anges qui nous écoutent. Mais vous qui êtes humain, vous avez à avoir une relation spirituelle privilégiée avec un seul être, et c'est Dieu. Amen?
Amen.
Dieu peut envoyer des anges pour vous aider. Lorsque des personnes décèdent dans votre famille, leur âme monte auprès de Dieu, il va bien s'occuper d'eux, mais votre relation doit être avec Dieu et avec Dieu seul. Comme nous dit le commandement, le premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi », dit Dieu, hein, c'est Dieu qui parle. Alors, concentrons-nous sur notre relation avec Dieu. Et je crois que aussi, quand on regarde ce qui se passe dans les activités occultes, je ne suis pas un spécialiste, il y en a qui ont touché à ça de près parmi nous, qui s'en sont repentis, qui s'en sont éloignés. Mais moi, ce que je vois, c'est que l'occultisme, ça commence toujours avec des espoirs positifs, puis ça finit toujours mal. Ça finit toujours dans la peur, dans l'emprisonnement de l'âme, dans le mal, dans la violence et dans la mort. Pensez au culte des morts. Hein? Moi, j'ai eu l'occasion de faire un voyage en Asie, mais ça existe dans beaucoup de continents, le culte des morts, c'est-à-dire on va aller chercher quelque chose de positif en faisant des choses pour faire plaisir à nos défunts, des sacrifices et autres. Mais ça finit toujours par la peur. On a peur que les défunts vont être offusqués et vont nous faire du mal. Et à ce moment-là, la religion prend cette direction-là. Le voodoo, je ne connais pas bien, mais je vois que ça commence toujours avec un espoir de quelque chose de positif. Et souvent, me dit-on, pour ceux qui ont touché de près, ça termine mal. Ça termine avec des choses parfois très, très mauvaises. Amen. Communication avec les esprits, comme par exemple avec la planche Ouija, ça, J'ai déjà vu ça dans mon adolescence, des amis qui jouaient à ça. Ça commence toujours bien, ça finit toujours dans la peur, avec ton âme enchaînée, ton âme effrayée, et parfois dans des situations où on fait du mal les uns aux autres. Vous savez, ceux qui connaissent savent de quoi je parle. Ce que je voudrais dire, c'est que il y a des dégâts qui sont causés. Parfois aussi, les dégâts, c'est des superstitions, c'est-à-dire des croyances qui peuvent être à moitié vraies, à moitié fausses, et qui font du mal. Je voudrais juste terminer avec cette histoire de géant. Cette histoire de géant dont parle Genèse 6. Alors, je crois que... Ah, je n'ai pas réécrit le verset, mais au verset 4, il y a une drôle de manière que l'auteur explique ce qui se passe ici. Il dit pas, ben, et on pense, peut-être en lisant rapidement, que l'auteur dit, ben là, les fils de Dieu se sont mariés avec des femmes humaines et ont créé des géants. Puis c'est de là que viennent les géants. Ce sont des demi-démons, demi-humains. C'est pas ça que le texte dit. Bon, peut-être on peut remonter, mais sauf que là, je vais me perdre dans mon truc, mais non, je ne vais pas être capable. Ouvrez votre Bible plutôt, au verset 4, Genèse 6, verset 4. Ça dit, « Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. » Donc, semble-t-il qu'il y a eu des enfants, mais ce n'est pas les géants. Les géants étaient là avant et étaient là après. Mais moi, je pense que les hommes ont dit, bien, les géants, c'est-à-dire cette ethnie ou race d'hommes qui était grand, bien, c'est des demi-démons. Et donc, on va les vénérer, on va avoir peur d'eux, on va leur donner des privilèges spéciaux. Mais le texte critique cette croyance. Le texte dit, ils étaient là avant qu'il y ait eu ces transactions occultes. Si je fais un fast-forward, suivez-moi, j'ai presque fini. Un fast-forward à l'histoire de Caleb. Caleb, qui est dans Nombre, chapitre 13, Moïse envoie des espions dans le pays de Canaan pour voir comment faire pour conquérir le pays. Et là, les espions, ils ont vu des géants. Et dans leur tête, à eux, probablement, ils se disent, « Oi, oi, ça, c'est des êtres spirituels supérieurs. Moïse, abort, on n'y va pas. Il ne faut pas y aller. » Parce que, sauf un, c'est Caleb. Caleb, c'est le seul espion qui a dit, « Moi, je m'en fous qui est là. Dieu nous dit d'aller, de conquérir le pays. » Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Nombre 13, verset 30. Et au bout du compte, c'est Caleb qui avait raison. Amen. Donc, premier point d'application, on va s'arrêter là aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres choses à voir dans notre texte. Soyons des Caleb, OK? Et particulièrement par rapport à tout ce qui est occulte, tout ce qui est spiritisme. Beaucoup d'entre nous avons touché à ça de près ou de loin. Certains d'entre nous ont été des victimes de ce type de croyances ou d'activités religieuses, peut-être dans un autre pays, peut-être même ici au Canada. Christ, qui est en nous, c'est le Dieu suprême. Il nous a mis au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute souveraineté. Et même de tout démon. Amen?
Amen.
Donc, soyons des Caleb. Ne nous laissons pas intimider par les personnes qui pratiquent l'occultisme. Ne nous laissons pas intimider par d'anciennes croyances qui peut-être sont même le produit de l'imagination. Ce que Dieu nous demande de faire, faisons-le, et les démons vont fuir devant nous. Prenons cette autorité, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Donc, par exemple, si quelqu'un vous dit, ne va pas dans telle maison, et il y a des esprits mauvais, c'est une maison hantée. Non. Je crois qu'en tant que chrétien, si l'Esprit de Dieu est en toi, tu peux entrer dans cette maison. Prie avant, si tu as peur, mais vas-y pareil. Parce que ces esprits-là peuvent ne même pas être là, ou même s'ils sont là, ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Amen. Bon, on va poursuivre dans deux semaines. Prenons un moment maintenant pour prier. Et une chose que je vais dire dans la deuxième partie de mon sermon, c'est que la solution que Dieu commence à apporter dans ce texte, c'est qu'il est en train de préparer la venue de Jésus-Christ. Et nous allons célébrer cette venue par le repas du Seigneur un peu plus tard. On va aussi entendre un chant dans quelques instants qui est là pour, qui va nous encourager à vraiment nous mettre du côté de la solution de Dieu pour transformer le monde. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce passage qui nous rappelle que la solution vient de toi, que la transformation du monde, ça vient de toi. Et Père, nous voulons te recevoir pleinement aujourd'hui. Nous voulons te dire, je t'appartiens. Je te donne ma vie. Peut-être que je me suis laissé attiré ou intimidé par des croyances qui ne viennent pas de toi. Des puissances que, dans mon esprit, je les ai mis égales à toi ou supérieures à ta puissance. Dieu de Jésus-Christ, il n'y a personne au-dessus de toi. En mourant pour moi et quand je t'ai accepté dans ma vie, tu m'as assis dans les lieux célestes. Seigneur, donne-moi le courage devant les géants qui sont sur mon chemin. Des géants qui peuvent être liés à l'occultisme, mais d'autres géants que sont la maladie, d'autres géants que sont les problèmes financiers, d'autres géants que sont toutes sortes de défis qui sont devant moi. Père, en Jésus-Christ, donne-moi cette foi d'y faire face et de vraiment agir selon ce que toi tu veux. Nous te prions au nom de Christ en te disant merci. Amen. Un autre aspect de ce que Dieu fait, c'est qu'il nous console. Hein? Dieu est un Dieu d'amour. On voit, ne pensez pas par ce texte que Dieu est un Dieu qui aime punir. Dieu n'aime pas punir. Dieu aime aimer. Des fois, il est obligé d'intervenir par sa justice. On en reparlera. Ce matin, Dieu veut te consoler.